pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Côtes d'Igarigue, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Bonsoir, bienvenue dans les Grégores. Ce soir, nous voulions profiter de l'actualité, à savoir que en ces temps de subversion pâtissière où farine, crème et œufs apportent un petit peu de déridaille à la grisaille quotidienne. D'ailleurs, solidarité totale avec Roméo, le lycéen de Vesoul, et solidarité également avec son acolyte Moisassien, qui actuellement, à l'heure où nous enregistrons cette émission, est encore en garde à vue. Il nous apparaissait évident de rendre hommage à un des plus célèbres anarcho-pâtissiers que notre époque ait compté. J'ai nommé bien évidemment Noël Godin, alias Aznoaz l'Entarteur. De BHL à Bill Gates, rares sont les pompeux cornichons qui ont échappé aux essais crémières du gloupier et de ses équipes. Et derrière cet anarcho loufoque, en fait, se cache en vérité une tradition de la subversion, de la critique, de l'action directe, bien plus consistante et bien plus réfléchie qu'il n'y paraît. Comme on l'entendra dans cette interview réalisée par Maya Najowski il y a environ une dizaine d'années, les références de Noël font florès. Elles s'adressent à la fois à l'histoire du mouvement ouvrier, à l'histoire de la subversion généralisée, mais aussi à la culture et évidemment à l'action directe. Et elle reste dans un étiage global et généralisé, à savoir ridiculiser les tenants du pouvoir et du pognon pour mieux démontrer leur ridicule et leur nocivité, et ainsi appliquer sans tarder l'heureux adage des situationnistes, jouir sans entrave et vivre sans temps mort. Il ne suffit parfois que d'un peu de crème fouettée et d'un bras vigoureux pour entarter et démonter les pompeux cornichons. Voilà, on voulait partager avec vous ce petit bonheur d'écouter Noël Godin et avec son accent et son style inimitable pendant une heure. On peut pas passer cette émission et ce son sans avoir une pensée ce soir pour Zira Kurtay, qui est donc la journaliste et la camarade turque dont nous avons passé un entretien la semaine dernière et qui entre aujourd'hui dans son 154e jour de grève de la faim pour obtenir son statut de réfugié politique et ses papiers. Et nous avons eu l'occasion de manifester en sa présence samedi dernier lors de la marche en soutien à son combat. Et franchement, véritablement, la force, le sourire et la détermination de Zera nous ont particulièrement impressionnés et forcent énormément le respect. Voilà, bonne chance, bon courage Zera, la lutte continue et on vous tiendra évidemment informé des avancées et de cette lutte. Bonne écoute et à bientôt, chers auditeurs et chères auditrices.
Bonjour Noël Godin.
Bonjour.
Je m'appelle Maya.
Bonjour Maya.
Merci, vous le savez. Donc bonjour Noël Godin, merci beaucoup de nous recevoir. Alors c'est pas chez vous, on aurait dû aller chez vous, mais hélas vous avez des petits problèmes de porte.
On m'a défoncé ma porte il y a quelques semaines. On est en train, des inconnus, on est en train de remettre une nouvelle porte. D'accord. Ça fait du bruit, donc on est ici.
On est ici donc, chez Toun.
C'est l'estaminet d'un théâtre de marionnettes très poilant, où les bières se trouvent à des conditions de conservation tellement idéales que l'euphorisation est décuplée, alors que la lucidité critique est intensifiée en même temps.
C'est vrai, je me sens à la fois euphorique et lucide. je vais faire une rapide présentation, parce que peut-être certains vous auront reconnu, mais peut-être pas d'autres, parce que vous êtes plus connu sous le nom de Georges Le Gloupier. Enfin, vous êtes Noël Godin, alias Georges Le Gloupier, alias l'Entarteur Belge. Donc, voici, mesdames et messieurs, l'Entarteur Belge, que vous avez certainement dû voir ailleurs qu'ici. Vous êtes né à Liège, il y a de cela quelques années. Vous avez commencé votre carrière de saboteur en tant que critique cinéma. Vous avez officié dans de nombreuses revues, mais la première, il me semble que c'était le Télérama belge qui s'appelait Les Amis du cinéma et de la télévision.
Les Amis du film et de la télé.
Les Amis du film et de la télé.
Aussi ridiculement chrétien que Télérama.
Que Télérama. Donc vous y avez officié en tant que critique cinéma. On parlera après de la manière dont vous avez travaillé là-bas. Vous avez collaboré à plusieurs magazines, Ciné-Revue Actuelle, Ciné-Hebdo, et vous continuez à collaborer pour certaines revues.
La presse satirique ciné-mensuelle,
voilà.
CQFD, Zélium, le Marianne Belge, M Belgique.
Ah, le Marianne
où
Belge.
On me laisse partout. Même là, on me laisse déconner en toute liberté. Ce n'est pas du tout canisé, Jean-François Canisé.
Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres. Je vais en citer quelques-uns. Crème et châtiment, Godin par Godin, Grabuge, Armons-nous les uns les autres, Entartons les pompeux cornichons. Et vous êtes surtout l'auteur d'une monumentale anthologie de la subversion carabinée que nos amis abonnés peuvent trouver aux éditions L'Âge d'Homme. C'est un peu, il faut la commander, on la trouve pas partout, mais commandez-la, c'est vraiment... pour sur la plage, ça sera super. Vous avez également réalisé plusieurs courts-métrages qu'on pourrait qualifier d'éducatifs. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut.
Absolument éducatif. Leur titre en témoigne. Prout prout tralala.
En 1974.
Grève et paix.
En 1976.
Si j'avais dit trou de cul.
En 1999. Et c'est tout.
Et le tout dernier, vous l'avez sous les yeux, ça
non.
S'appelle Titre va me revenir. Ouais. Foutons le feu, boutons le feu à la baraque, prenons nos clics, prenons nos claques.
D'accord. Il est sorti récemment, mince, pardon, je ne l'ai pas vu.
C'est il y a quelques années.
D'accord.
Le dernier film interprété par le boucheur de serrures extravagant,
oui.
Robert Dehou.
Dont on va parler, celui qui bouche les serrures avec des allumettes.
Coupée dans le sens de la longueur,
sens, voilà.
Introduite mutamment dans des serrures,
voilà.
Qui s'avèrent dès lors inouvrables. Bien sûr, ce n'est pas grave, il n'y avait pas trop fort à l'intérieur. Serrure de lieu de culte,
voilà.
Serrure d'école, de banque.
Voilà.
Un beau jour, aucune banque n'a pu ouvrir à Bruxelles, car on les avait toutes bouchées. Il y a des modes de bouchage plus sophistiqués qui existent maintenant,
mm-hmm.
Mais tout boucher, c'est paralyser le règne de la connerie.
Alors, vous êtes également acteur. Alors, d'après votre ami Benoît Poulvert, vous êes un acteur...
Le plus lamentable acteur de tous les temps.
Voilà.
Au point, précise-t-il, que c'en est fascinant.
Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, vous avez quand même réussi à être engagé dans plusieurs films. Les films de Yann Bucquois, notamment, qui est un réalisateur belge, dont on peut citer quelques films. La vie sexuelle des Belges,
En 7 épisodes.
En 7 épisodes.
Il prépare d'ailleurs le 8e épisode. Camping Cosmos numéro 2 sera tourné dans quelques mois.
D'accord. Et vous y interprétez un rôle bien précis, celui du
Bernard-Henri Lévy belge.
Voilà.
Le grotesque Pierre Mertens. notre gloire nationale littéraire qui rêve vraiment de décrocher le prix Nobel.
D'accord.
De littérature.
D'accord. Enfin, écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Je précise juste que chaque fois que je parle dans ce film, donc Pierre Mertens parle, tous les propos sortent de ses livres à lui.
Oui, oui.
Sortent réellement de ses livres à lui.
Et ça suit sa vie en même temps.
Et
là,
ça suit, et c'est la catastrophe pour lui.
Au point qu'il,
j'ai quand même dit à Yann Bucquoy, il m'annonce que dans le prochain épisode de La vie sexuelle des belles, je serai de nouveau Pierre Mertens. Je dis, écoute Yann, il faut quand même que je te dise qu'il paraît qu'il a un cancer. Yann m'a répondu, tu auras donc un cancer dans le film.
Alors, c'est dommage parce qu'on n'est pas chez vous, mais je mettrai un lien où on pourra voir votre collection. Chez vous, vous avez une collection de 20 000 films en
je n'ai jamais chiffré, mais beaucoup. Puisque je ne suis pas un cinéphile, mais un cinémaniaque, un gouliafre,
d'accord,
comme on dit en Belgique, dingue de vieux films. Donc, mon critère, c'est d'essayer d'avoir tous les vieux films datant d'avant 1960, quelle que soit leur nationalité.
Oui, parce qu'après 1960, le théâtre, c'est plus... Le cinéma, c'est plus...
C'est plus tout à fait ça, mais je ne veux pas être... non plus de ces cafards qui disent « Ah, avant, c'était le vrai cinoche, avant la vraie littérature, et puis maintenant, il y a encore des films chouettissimes. Donc, je donne un exemple, pour moi, le Mad Max numéro 4 est un chef-d'œuvre de corrosivité ultra-féministe.
Le Mad Max avec Charlize Theron.
C'est fond, Pussy Riot.
Très bien, bah j'irai le voir. J'hésitais jusqu'ici, mais là, vous m'avez convaincu.
Il faut,
d'accord. Et donc, 20 000 films, mais votre bibliothèque aussi, elle s'étale, là, j'ai vu rapidement tout à l'heure, elle s'étale sur 3 ou 4 étages. Enfin, c'est on dirait vraiment une bibliothèque municipale tellement... Et puis, les livres sont classés par... parfaitement par
oui, je suis un classeur maniaque, par ordre alphabétique, et les dispositifs se font par genre, mais attention, je mets le haut là. Et j'ai fait en sorte de me secouer les grelots, drôlement, pour mettre ces films et ces livres, les illustrer par ma propre vie, mettre en m'ingéniant à vivre dans des émotions cinématographiques, dans des gags rappelant Blake Edwards ou Leo Macaré, dans des grands sentiments rappelant les mélos de Douglas Sirk ou de Raffaello Matarazzo, et surtout dans l'aventure trépidante. Je cite souvent Errol Flynn, mais parce que c'est le pote idéal, totalement, autant dans Captain Blood que dans Robin des Bois. Il a quelque chose de totalement anard, et puis il tient de sa destinée d'une façon très situationniste.
Oui, et c'est ce qui, vous avez une, comment dire, pas une détestation, mais vous appréciez peu les marxistes, et notamment parce qu'ils demandaient qu'on jette à la poubelle nos disques, nos livres, et surtout qu'on ne s'identifie jamais à aucune figure héroïque du cinéma hollywoodien d'avant-guerre, alors que vous, au contraire, vous trouvez qu'il faut, ou en tout cas que ces figures-là, notamment celle d'Errol Flynn, on devrait s'en inspirer pour conduire sa vie.
C'est tout à fait ça qui se passe. Dans les années 68, alors qu'il se passait plein de choses transgressives, extraordinaires, tous les critiques de cinéma, mais toutes les tendances étaient aussi bien positives que Jeune Cinéma, Les Cahiers du Cinéma, que Cinétique, disaient la même chose, qu'il fallait en finir avec le cinéma bourgeois qui, selon eux, était idéaliste, aussi ma petite bourgeois, au sens qu'ils appelaient à une identification avec des personnages, et que pour eux c'était toujours pigeonneur de s'identifier à qui que ce soit. Ils préconisaient, tous ces critiques austères, la distanciation brechtienne, le recul totalement à toute forme d'identification. Et nous étions quelques-uns dont Jean-Pierre Bouixou, mon désalter ego, et moi-même, a pensé exactement le contraire, nous disant que, en allant voir un tas de films contestataires qui se passaient aujourd'hui, comme ceux des Straub, on s'emmerdait comme des rats morts, totalement, tandis qu'en allant voir certains vieux films hollywoodiens, on sortait exalté par ces personnages, bravant tous les dangers, totalement, pratiquant l'amitié jusqu'au boutistement, restant fier à travers tout et risque tout. Mmh. Et dès lors, alors que les critiques marxistes-léninistes n'arrêtaient pas de vitupérer contre le spontanéisme, le volontarisme, l'aventurisme. Mmh. On pensait, Jean-Pierre et moi, quelque chose, juste le contraire. Mmh. Si c'est, mais soyons volontaristes, soyons spontanistes, soyons aventuristes. C'est des mots qui nous plaisent beaucoup et je trouve toujours que c'est des très, 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 très beaux mots et que ces critiques sont de ridicules cornichons.
Qu'on aurait pu entarter. Et alors justement, donc ce qui est frappant, enfin ce qui est exaltant, c'est que je pense que vous avez lu plus de livres et que vous êtes d'une érudition beaucoup plus grande que n'importe lequel de nos intellectuels médiatiques français ou belges, et que finalement de tout ça, donc de l'idéal situationniste, donc de mettre en pratique, de vivre sa vie, de s'inspirer de tous ces films et de tous ces livres que vous avez lus, et ben le résultat, ça a été l'invention avec Jean-Pierre Bouixou de Georges le Gloupier et de l'attentat pâtissier. Enfin, qui a une histoire antérieure. Vous n'êtes pas l'inventeur de l'attentat pâtissier.
Tout à fait ça.
C'est quand même assez impressionnant quand on vous voit déambuler dans votre bibliothèque avec, des centaines de livres que vous connaissez sur le Poutetois et de voir que tout ça a fini par vous inspirer une tarte à la crème dans la gueule. Je trouve ça fantastique.
Parce que le fait de se rendre compte qu'on est de fantastiques érudits et que cette érudition est souvent la vacuité totale, qu'on ne vit pas du tout, qu'on s'exprime à travers les références, on s'est vraiment rendu compte que j'ai des pauvres couillons de plus si on continuait à se contenter de lire, de visionner, toujours cucu chèches.
Donc le chésifié.
Donc on s'est mis à tenter, même à réussir, à vivre le cinéma à notre manière. Par exemple, quand Georges Le Gloupier s'approche avec sa barbe, avec son nœud papillon, s'approche de ses victimes en faisant des petits bonds. La référence est directe à Bourville dans Un drôle de paroissien dans la grande décive de Mocky qui sautille en marchant et une ressemblance physique que personne n'a jamais remarquée entre Georges Le Gloupier et Bourville dans ces quatre comédies sous la houlette de Mocky.
D'accord.
Le raisonnement était très simple. À partir du moment où on rigole quand on voit un vieux Maxenet, qu'un personnage respectable se prend une tarte à la crème, on rigole. On ne rigole plus si c'est un personnage qui n'incarne pas le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Donc, si dans la réalité, on balance des tartes sur des personnages pète sec, se prenant tragiquement au sérieux, c'est comme au cinéma. Beaucoup rigolent et ne peuvent pas s'empêcher de rigoler je n'ai jamais su le prononcer, c'est votre Daniel Schneiderman. qui avoue dans un article récent qui désapprouve en ça l'attentat pâtissier, la persécution pâtissière de BHL, mais qui doit bien avouer qu'il a bien rigolé quand même. Oui.
Oui, enfin, il va plus loin que ça. Il dit en gros que, bien sûr, son sentiment premier, c'est la violence, même symbolique, c'est toujours condamnable de s'attaquer quand on est en surnombre face à une cible désarmée, mais que finalement, son hésitation entre la jubilation et la honte avait été réglée assez vite par la lecture d'un papier d'un je sais pas comment on appelle ça, je peux pas appeler ça un journaliste, mais un gars qui écrit la règle du jeu, donc
un scribouillard,
je vais pas le dire, mais je vous laisse le dire, mais oui, un scribouillard de la règle du jeu qui en gros vous faisait un procès en antisémitisme, que finalement la tarte à la crème. Non, mais je l'ai noté. Il faut le lire absolument parce que c'est voilà.
Oui.
Il dit quel rire déclenche les Noël Godin. Les rires grappés plébéiens comme ceux auxquels s'abandonnaient les badauds à Vienne en 1938, regardant des juifs obligés par les hitlériens nettoyer avec des brosses à dents les inscriptions anti-nazis sur les trottoirs.
C'est incroyable.
Ce sont les mêmes rires, ou plutôt ces ricanements, qu'aimaient déclencher avant-guerre les camelots du roi faisant jouer sur l'esprit parigot, donc on va leur rabattre leur caquet à ces lopettes de Youpin, pas vrai les gars, vas-y petit Godin, montre que t'es avec le peuple, souille une fois de plus le visage du juif, et voilà. Bref, je continue pas, et donc ce qui avait fait dire à Daniel que voilà, en lisant ça, texte absolument délirant, que bon, finalement on pouvait plus hésiter entre la honte ou la jubilation, qu'on choisissait forcément la jubilation.
À un certain moment, dans le siècle de Sartre, quelque chose du genre, je voudrais, comme Jean-Paul Sartre, être une sorte de confessionnal ambulant des idées qui distribuerait à sa guise ses indulgences. En toute lettre, mais voilà une bonne raison pour l'entarder à tout jamais.
Oui, non, mais c'est vrai. Non,
et vous quand vous citiez... La règle du jeu et leurs propos inouïs à propos de l'antisémitisme, il faut savoir que la deuxième fois que nous avons entarté BHL à Bruxelles, alors qu'il n'y avait pas de vrai relais médias, BHL, on a su que ça venait de lui, m'a accusé, personnellement, lors de son entartement, de mettre écrié youp youp. Youp youp. Alors qu'il s'agissait bien sûr de gloup gloup. Notre cri de guerre, ça devenait youp youp. Donc ça devenait tout d'un coup antisémite.
Ouais.
C'est le délire absolu et nous avons dû, face à cette accusation, distribuer à tous les médias belges une cassette, etc., avec ce qui s'était réellement passé, le gloup gloup, et non pas le youp youp.
Mais alors, du coup,
on est dans le délire absolu.
Sur la justification, alors pas seulement de BHL, mais aussi, donc votre première victime, entre guillemets, c'était Marguerite Duras. Vous dites, d'ailleurs, c'est la première et la seule femme, il me semble, à part Arielle Dombasle, mais qui est victime collatérale, qui n'est pas vraiment visée. Mais Duras, c'était...
Il en reste une troisième. Hélène.
Ah oui.
À l'époque glorieuse d'Hélène et les garçons,
mais
en entartant Hélène, on ne s'en prenait pas à cette pauvre petite connasse, mais au système d'AB Productions en soi, totalement, et au principe des séries couillonnantes.
Ouais.
D'ailleurs, les deux entarteuses d'Hélène étaient cachées sous la scène où elle se produisait, dans la plus grande salle de Bruxelles à Forêt Nationale. Elle entame sa deuxième chanson. Les deux pétroleuses en question qui étaient là depuis 5-6 heures blottis sous la scène surgissent. L'entarte, Hélène doit interrompre durant 12 minutes. La garde rapprochée d'AB Productions leur flanque des coups de poing à la figure, les piétine, les traîne par les cheveux le long d'un escalier, leur mettre la tête dans un évier et s'apprêter à leur mettre la tête dans les chiottes, quand elles ont été sauvées par un brave commissaire de police qui avait été entraîné là par sa fille, « Papa, je veux voir Hélène », et qui appelait, c'est des vrais flics qui les ont amenés au commissariat et qui les ont empêchés d'avoir la tête dans les chiottes, et elle s'imaginait même violée par derrière
ce
moment-là.
C'est assez violent, les suites des entartrages, c'est toujours...
Mais du côté des gardes du corps dont le boulot est en jeu, on n'a jamais eu, nous, de vrais problèmes avec les flics. On a la chance de tomber sur des flics courtelinesques, en général, et plutôt amusés. Je suis convoqué au commissariat, dans un commissariat de Bruxelles, à la suite d'une plainte venant de l'archevêché de Nantes. Il se fait que 3 ans auparavant, il aurait fallu 3 ans, en pleine grand-messe intégriste, 15 jours avant l'arrivée du pape, des forbans se sont précipités sur les prêtres officiants et les ont somptueusement entartés. Et le commissaire de police que j'ai devant moi me dit « Monsieur Godin, on vous accuse d'avoir été parmi vous. Regardez ces photos. » Il y a des photos où je suis en train d'entarter un des archevêques en question. « Monsieur Godin, je ne vous vois pas, vous voyez-vous ?»« Non, je dis. Bon, non, n'en parlons plus, j'ai un petit service à vous demander. » Il sort son portefeuille. « Combien ? Combien voulez-vous pour entarter le chef au bal de la police ?» Réellement, réellement.
Donc, on parlera plus tard des complicités et même des entartages qui ont été en quelque sorte commandités. Parce qu'il y a des gens qui vous demandent.
Oui, qui ont été commandités, mais nous avons toujours dit non.
Ah bon ?
Oui, mais on nous a souvent proposé des sous et parfois beaucoup de sous pour entarter, par exemple. Catherine Deneuve et Sharon Stone, je n'ai rien contre elles, je les aime bien, je suis fanat des films de Jacques Demy et Sharon Stone dans un western de Sam Raimi, dont vous connaissez peut-être le titre Maya, elle est formidable. Ouais. Donc, chaque fois qu'on me propose des sous...
Non, il y a eu une exception, PPDA. Il y a un type mystérieux qui vous a donné des sous pour payer, alors avec lesquels vous vouliez payer la maquilleuse ou la costumière, c'est marqué dans le livre. Mais finalement, comme vous avez fait...
c'est bien, mais précise
que... Vous avez dit
que ça vient de moi, donc que c'est dans les livres. Alors j'essaie de me rappeler.
C'était une exception. Vous dites c'est une exception. Quelqu'un qui a dit je vous donne du fric. Ça sera pour PPD, mais comme vous aviez raté PPD et vous avez fait Al-Kabash à la place, c'était à Roland Garros.
Oui.
Mais donc du coup, mais la maquilleuse avait refusé d'être payée. Elle avait dit ça sera pour. Ce sera pour garder les sous pour PPD. Mais donc, enfin, en tout cas, oui, on vous propose, il arrive qu'on vous propose de l'argent pour entarter tel ou un tel.
Et à part cette histoire, mais je ne me souviens plus de quoi il s'agit. On explique qu'on n'est pas des mercenaires de la tarte, qu'on n'est pas des corsaires, mais des pirates qui n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Et ça serait la fin de tout si on se mettait à devenir des vrais tueurs à gacs.
Ouais.
On est des tueurs à gacs, mais des tueurs plus à gages qu'à gacs.
Mais vous faites pas des fois plaisir, par exemple, à des gens que vous aimez bien, et genre, on pourrait vous soumettre une liste, et puis comme ça, vous pourriez le faire. Enfin, ça vous arrive jamais, juste pour faire plaisir à des amis, à des...
Mais il y a tellement de têtes à tarte idéales que si on se mettait en tarté pour faire plaisir, on n'arrêterait plus jamais. Ouais. Donc, on n'arrête pas de conseiller à ceux qui viennent à nous de s'y mettre eux-mêmes.
Oui. Non, mais c'est vrai.
En procédant dans l'impunité la plus totale, en pratiquant l'échange des bons procédés.
Ah oui, ça, c'est génial.
C'est ça qui arrive sans arrêt, parce que on nous demande parfois, plusieurs fois par semaine, on téléphone et dire je n'en peux plus, mon patron est une ordure, c'est impossible, pouvez-vous venir l'entarter ? Ça arrive tout le temps, et ma compagne Sylvie et moi, on répond la même chose, on comprend absolument que vous ne fassiez pas vous-même, si vous vous faites attraper, vous perdez votre boulot, vous êtes viré. Mais il y a la solution, l'échange des bons procédés, vous allez entarter le patron d'une autre boîte, d'une autre usine, d'une autre station de radio, en échange de quoi ? On va entarter le vôtre pour que tout se passe dans l'impunité la plus totale.
Et donc, plus
vraiment, de temps en temps, on me téléphone pour me dire « on l'a fait ».
Donc, il faudrait faire une bourse à l'entartage, en fait. Il faudrait faire un site internet où c'est une bourse à l'entartage. Je propose d'entarter machin en échange. Qui peut entarter truc en échange j'entarte.
Votre site pourrait servir à ça. Ça pourrait prendre cette allure grandiose.
D'accord.
Totalement. Okay. Site comme le vôtre prenait ça en main.
Bah écoute. On va en parler au prochain comité de direction, rédaction, enfin voilà. Et alors, non, mais alors je voulais juste finir sur Duras, parce que c'était intéressant, juste pour, enfin pas pour être sérieux, mais pour revenir au cœur des choses. Vous dites, Duras, on vous a demandé, il est souvent arrivé qu'on vous demande, mais au nom de quelle littérature condamnez-vous celle de Duras ? Et là, vous répondez au nom d'aucune littérature du tout, mille bombardes. Il serait par trop débilitant de perdre son savon à opposer la vacuité abyssale des bricolages liturgiques de Marguerite Duras et des pensums de Bernard-Henri Lévy à la confondante richesse des écrits de Joyce, de Proust, de Borges, de Nabokov, etc. Ce serait se laisser empapaouter par la culture, cette culture dont d'ordinaire les porte-fanions pourris de talent, au même titre que les tocassons, sont précisément des enculés. Donc après, vous précisez dans quel sens vous utilisez enculé.
Mais oui, important.
Mais ce que je trouve intéressant, enfin, alors je vais préciser, pardon, au sens enculé, au sens Avely, Mauriac, Boutin, Breillat, Bigard, Jean-Co Aragon du terme, bien sûr, et non pas au sens bandatoire, Genet, Fourier, Crevel, Sade, Fassbinder, Hockenheim, etc. Et donc, vous dites, l'offensive gloupinesse contre les pharaons des arts et des lettres ne se mène pas au nom de ce qu'il y aurait de meilleur dans l'actuelle culture, l'art n'étant le plus souvent pour nous, comme pour Picabia, qu'un produit pharmaceutique pour imbéciles. L'offensive gloupinesse dont l'entartage est définitivement anticulturelle comme elle est définitivement antipolitique. Donc, parce que c'est un peu la question qu'on se pose quand vous entartez Marco Ferreri, vous le dites, bon ben on l'a entarté parce que son dernier film commençait à verser dans le brechtofreudisme, ça vous faisait chier. Godard, c'est parce qu'il avait commis un film dont vous estimiez que... Voilà,
je vous salue Marie.
Voilà, je vous salue
tout d'un
Marie.
Coup
mais donc,
et surtout qu'il s'était prosterné devant ce qu'on appelle le gangstérisme pontifical en demandant qu'on retire son film des salles avoisinant le Vatican pour ne pas désobliger celui que nous appelons le taré tiaré.
Ah oui, il faudrait que je vous pose une question sur le pape, mais du coup, voilà, c'est pas un peu, même si je comprends, mais vous pouvez pas juste entarter quelqu'un parce que vous avez pas tellement aimé son dernier film.
Mais attention, le début de l'offensive Gloup Gloup était très ludique. C'était des petits chenapans. C'était Jean-Pierre Bouixou qui... c'était un canular qui nous emprenions à ce que Nietzsche appelle la culture narcotique. Mmh. Et petit à petit, vu le fait que ça a pris de l'ampleur dans les médias et de plus en plus, on s'est dit, c'est très chouette, injectons vraiment du contenu, que ce ne soit plus seulement un gag de petit chenapan, comme ce l'était au début, c'était ce qui nous hérissait le poil qui était visé, et on s'en est pris d'abord au faux cul de la télévision, de la radio, des médias, guerre de Jean-Pierre Elkabbach à PPDA. Mmh. Et puis, lorsque notre réseau de complicité s'est amplifié pour notre grand émerveillement, on s'est attaqué à l'économico-politique de plus en plus, et nos complices de l'international pâtissière s'y sont mis de plus en plus, parce qu'il y a peu de patrons de multinationales qui n'a pas reçu sa tarte à un moment donné, comme le big boss de Monsanto, que nos amis des BBB, des Biotic Baking Brigade, l'ont entarté grandiosement.
D'accord. Et à vous, on vous doit l'entartage mythique de Bill Gates.
C'est la troisième phase, voilà, du feuilleton gloup-gloup.
Ouais, et pour lequel
vous avez
bénéficié de complicité au sein de Microsoft.
C'est un de nos grands secrets. Comment arrive-t-on à nos cibles bien gardées? Ben la plupart de nos dernières cibles ont été trahies. Ont été trahies par des membres de leur entourage. Je donne un bon exemple. Daniel Toscan-Duplantier était sur notre liste noire parce que on peut considérer qu'il s'agissait du vrai maître du Festival de Cannes, du maître occulte sur le plan économique, tentaculaire, puis œuvresque. Or, l'occasion se présente, deux de ses assistantes directes viennent à nous, on doit vous parler, il est odieux avec nous, il exige le droit de cuissage sur ses collaboratrices et notamment sur nous. Donc elles l'ont trahi, elles ont préparé le plan diabolique. Et c'est arrivé dans bien des cas. Sinon, on n'aurait pas attrapé PPDA en plein jogging.
Ouais.
Et Bill Gates a été trahi par un membre de l'état-major de Microsoft Belgique qui nous a précisé Monsieur Godin, je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas anarchiste du tout. Et je considère que Monsieur Goetz a besoin d'une bonne leçon.
C'est génial. Mais oui, parce que sans ça, sans complicité dans le sein du sein, c'est très difficile. Enfin, c'est, tout le monde ne peut pas le faire.
De plus en plus difficile.
C'est ça.
Totalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les coups les plus invraisemblables sont possibles. Pourquoi en suis-je aussi sûr? Il m'est arrivé, lorsque je tournais un sketch pour Canal Belgique avec Jacques Berroyer à l'hôtel Conrad, que des membres du personnel viennent à moi et me disent « Monsieur Lantarteur, voulez-vous me suivre ou voudrez-vous montrer quelque chose ?» C'était juste avant le règne de George Bush, donc il y a déjà quelques années. Ils m'amènent dans une pièce, ils me disent « Ben voilà, vous n'ignorez pas que chaque fois que Monsieur Clinton débarque à Bruxelles, bien avant qu'il ne soit président, c'est dans notre hôtel qu'il descend. Bien, voici la pièce si présente où il fait son jogging chaque matin quand il est à Bruxelles et de nous préciser quand il reviendra, on pourra vous aider, quelques amis. On a eu un beau jour un appel d'une petite ville d'Italie. C'était un collectionneur, un animateur de galerie artistique pas du tout farfelu qui me disait « Mais écoute, Noël, dans 3 jours, le pape est ici, dans ce petit village. Je suis à 100 mètres de lui. L'opération est totalement possible parce qu'il n'y a aucune méfiance. Mais il est indispensable que tu arrives avant minuit. » Or, je n'ai pas réussi à rassembler une équipe en quelques heures, car on ne pouvait pas prendre l'avion, parce que tout de suite, j'aurais été signalé, donc il fallait venir en voiture. Je n'ai pas réussi à trouver une voiture et une équipe pour arriver à partir de minuit. Il n'y avait plus que la population locale qui pouvait franchir le dispositif de sûreté. Mais on a revu le galeriste en question qui m'a dit « Mais ça aurait été vraiment possible. »
Ouais.
Donc la grande nouvelle, c'est que même le pape et le président d'Esthète, c'est possible.
Mais du coup, c'est possible. Mais à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de penser, quand vous racontez la manière dont sont préparés les attentats pâtissiers, de se dire « Mais si, du coup, si c'est possible avec les tartes à la crème, est-ce que ça ne serait pas possible avec autre chose, avec un couteau ?»
Oui, nous démontrons absolument que n'importe quel vrai de vrai terroriste sanguinaire peut réussir son coup.
Mais vous le démontrez juste, vous. C'est pas une incitation. Là.
Ah ben non, mais c'est une évidence, totalement.
Ouais,
c'est pour ça que quand Bill Gates s'est entarté, dans la revue des gardes du corps, ils ont une revue, ils ont un trimestriel.
Ah bon ?
Sur la couverture, il y avait le jour noir pour la guerre rapprochée.
Ils ont perdu leur boulot, les pauvres.
Ah oui, ils ont été congédiés sur le champ. Oui.
Non, enfin, je veux dire, non, mais oui, bah c'est comme le dernier entartage de BHL, il y a eu le garde du corps.
Vous êtes bien rattrapé.
Ouais,
par
ça va. Oui, ouais, parce que je sais qu'il y a que les bureaux qui disent entartage.
Oui.
Mais ouais, je le sais. Voilà.
Bravo.
Merci. Et donc, le garde du corps l'emmène, mais d'une violence. Il est une fois qu'il est déjà entarté, le gros black là qui le prend.
C'est bien de le remarquer, parce que il y a eu beaucoup de commentaires sur le 8e entartement de BHL et on nous a accusé, nous avons aussi pas mal d'ennemis, on nous a accusé d'avoir brutalisé BHL à part l'impact de la tarte. Or, il suffit au ralenti de regarder les images, c'est le propre garde du cœur de BHL qui, pour le protéger, le prend, hop, et le pousse en avant et le rattrape un peu plus loin, le malmène donc beaucoup.
D'accord. Et alors, du coup, ça m'amène à la violence, parce que donc vous avez choisi votre camp, enfin dans l'anthologie de la subversion carabinée, là l'œuvre monumentale que vous avez publiée il y a, je sais pas, 20 ans maintenant ou 30 ans.
Oui.
Voilà, mais qui a été rééditée depuis. Et donc c'est une collection de textes d'auteurs très différents. Ça va de Prosper Mérimée à Jacques Mérine, enfin voilà, le spectre est très large. Il y a des appels au sabotage, à des trucs très ludiques, etc. Mais il y a aussi des appels au meurtre.
Oui.
Et bon, alors c'est une anthologie, donc c'est normal. Vous
oui, et je précise le meurtre justicier. Oui. Toujours.
Bah non, j'imagine pas au meurtre gratuit.
Pas au meurtre gratuit.
Je suis d'accord. Mais vous avez choisi votre camp. Vous appelez ça la subversion ludique. Mais ça vous empêche pas d'apprécier les textes qui sont radicalement violents. Et j'en viens au film que vous avez tourné avec Jean-Marc Rouillon. Est-ce que, comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous considérez, des gens qui ont choisi un mode d'action, un peu plus radical et plus...
Et j'aime tous les vrais rebelles qui vont jusqu'au bout de leur révolte. Attention, il faut évidemment de plus en plus établir des distinctions. Aujourd'hui, à peu près tous les terroristes sont des salopards, sont des fachos, c'est-à-dire des terroristes d'État ou des terroristes religieux. Il y a presque, mais il y a eu des terroristes sympathiques dans l'histoire, ce qu'on refuse évidemment d'admettre, à commencer par Robin des Bois, qui était un grand terroriste totalement, et même les pieds nickelés à leur manière. Il y en a eu beaucoup. Et de mon côté, j'applaudis tous les généreux rebelles qui vont jusqu'au bout de leur indignation totale. Advienne que pourra, d'une façon risque tout. Il y en a beaucoup dans mon anthologie. Ceci dit, beaucoup d'attentats terroristes, j'appelle ça rocambolesque, ce que j'aime bien, les attentats anarchistes de la Belle Époque, comme Ravachol et Minori. Moi, c'est rocambolesque, mais beaucoup n'ont servi à rien, de toute façon. Mais c'est pas là que ça se pose. C'est des colères qui se traduisent jusqu'au bout, au-delà de toute question d'efficacité. Souvent, ça a servi à renforcer la répression, c'est sûr. Mais donc, ils sont un peu vite condamnés, ces grands malotrus qui mettent leur vie en jeu et qui ne menacent que des tireurs de ficelles. C'est vite de dire, mais c'est des fachos en puissance, qui sont quelques-uns contre tout l'appareil d'État. Moi, j'aime toute une partie d'entre eux, ceux dont la sincérité ne souffre aucun doute. Mais je n'arrête pas de préconiser le terrorisme burlesque totalement, comme nous le faisons nous, et comme le font les pussy riotes, les néo-femen, les yes-men.
Alors on va parler des femen.
Et bien
alors.
D'autres.
On va parler des femen, mais je voudrais...
Gredin et fiefé Gredin.
Mais il y a une citation qui est pas mal sur l'efficacité ou l'utilité de ces attentats. Pâtissier, vous citez Boris Vian, qui disait un bon révolutionnaire ne doit s'emporter que lorsque l'orage est venu. Jusque-là, combattons l'ennemi avec tous les moyens fielleux et perfides dont nous disposons. Donc c'est l'idée que finalement, comme BHL, il y a des tas de livres, des plus grands auteurs qui ont été écrits sur la vacuité de ce personnage, sur sa nullité. Enfin voilà, rien n'y fait. Et peut-être que une tarte à la crème dans la gueule lui a fait plus de mal que tout le reste.
Oui.
Vous faites une espèce de recueil des conseils de sabotage les plus judicieux dans les usines, saboter les pointeuses, intervertir les étiquettes de colis qui du coup des marchandises qui partiront à un bout de la planète au lieu d'aller à un autre bout.
Oui.
Du coup, ça fout un bordel monstre et ça fait perdre beaucoup d'argent à ces gens-là. Enfin,
oui.
Voilà, c'est-à-dire que on n'attend pas le grand soir, on sabote et on sera finalement plus efficace que dans la parlotte ou dans l'analyse perpétuelle. Enfin voilà.
Vous mettez très bien le doigt dessus, Maya. Tout bonnement, la subversion, c'est comme le cinéma. On peut aimer des films confidentiels ou des blockbusters déviants, aimer autant les comédies musicales d'agitprop comme une chambre en ville que les films goguenards de Pierre Carles, j'ai pas en fait. C'est la même chose pour moi en subversion. Mmh. On peut totalement apprécier les greffes insurrectionnelles, les attentats ravassolesques qu'on évoquait, mais aussi les sabotages ingénieux et pleins d'imagination qui se font sournoisement, ou alors le terrorisme loufoque comme nous le pratiquons et qui est mon choix personnel. Je suis pour tous ces modes de subversion à la fois.
Mais qu'est-ce totalement. Qui est le plus efficace? Enfin, je ne sais pas si la question de l'efficacité est pertinente, mais entre les grèves de 95 je ne sais pas moi, le sabotage des pointeuses à Renault ou les tartes à la crème à la gueule de
pas d'illusion sur la notion d'efficacité. Tout dépend des moments, et alors au lieu de se tracasser en se disant comment pourrais-je nuire efficacement à ce système de merde, le tout est de réagir. Et là, je recommande ce qui est pour moi l'auteur subversif le plus important du moment vivant, c'est John Holloway. John Holloway, dans Crack Capitalisme, démontre d'une façon sublime que toutes les révoltes ont du prix, des révoltes majuscules, mais aussi des révoltes minuscules. Le moindre acte de refus dans son boulot ou vis-à-vis de quelqu'un qui nous humilie, et même dans les rapports personnels, familiaux et les rapports de couple, le moindre acte de révolte vaut le coup et peut nous amener à aller plus loin et fait avancer l'épopée de la subversion. Ne sous-estimons aucune façon de dire non résolument du moment que ce soit fait avec imagination, originalité, drôlerie si possible. Et félicitons-nous, car là, contrairement à ce que beaucoup croient, la révolte, l'épopée de la révolte se porte de mieux en mieux.
Ah bon?
Totalement. Ah ben oui.
Parce que dans le film avec Rouillant, l'extrait que j'ai pu voir, vous dites beaucoup ont baissé les bras et finalement ils sont pas heureux d'être ce qu'ils sont devenus. Oui. Et donc il y a pas beaucoup de.
Mais il y en a quand même qui se révoltent, et de plus en plus. Et là, ça fait du bien de lire John Holloway parce que c'est sûr que La révolte se reporte bien, se reporte de mieux en mieux pour le moment, de mille et une manières. Je renvoie au livre L'Artivisme qu'on a évoqué un peu avant cette émission Stéphanie Lemoine et son ami aux éditions Alternatives, qui est un panorama exceptionnel des nouveaux styles de révolte.
Alors à demain, sans le j'en étais avant la trêve. Oui, donc les entre ceux qui ont baissé les bras et ceux qui continuent, il y a des influences présentes et passées. Vous dites que par exemple, vous estimez qu'aujourd'hui les vrais héritiers de la subversion, c'est des gens comme les Yes Men, qui font des avec leurs fausses conférences, qui se font passer pour des gens de l'OMC qui organisent des fausses conférences, enfin voilà, qui sont vraiment dans cette veine là et c'est vrai
qui font du principe même de l'imposture un chef-d'œuvre.
Bon, je vous absous sur les femmes, alors très bien. Alors l'autre désaccord, bon, c'est un petit désaccord, mais pourquoi est-ce que vous avez entarté Henri Guillemin? Franchement.
Henri Guillemin, c'était... Tout au début, on prenait nos décisions un peu vite. C'est marrant parce
vous
que...
Vous le regrettez?
C'est la première fois qu'on me reproche Henri Guillemin. On m'a souvent reproché du rage, je m'explique très bien. Godard, sans fin ni cesse, je m'explique très bien. Marco Ferreri, c'était le premier cinéaste qui nous tombait sous la main. Mais alors, Henri Guillemin, jamais personne. Alors, c'est très marrant. Ben, je trouvais plutôt barbant quand même. Mais après, j'ai lu son livre sur la Commune, qui n'était quand même pas mal. Ceci dit, il a préconisé le christiano-marxisme, quand même, le rapprochement total entre les crapauds chrétiens et les busards marxistes.
Oui, mais il était anticlérical, il a beaucoup critiqué les institutions religieuses.
Mais tout en se laissant empaumer par le progressisme chrétien d'une façon très ostentatoire.
Oui, non, mais d'accord. Mais bon, je veux dire, ça, rien que pour sa manière de raconter la commune, il méritait pas un entartage. Mais bon, ce qui est fait est fait, hein, je t'avoue. Voilà.
S'il l'a ramené, il ne serait certainement pas sur la liste noire. Ah, il est sûr qu'il y en avait mieux que lui. C'est aussi venu par le fait qu'il était sur notre route à un mauvais moment pour lui.
Non, mais il y en a que vous regrettez après coup. Aucun.
D'accord. Aucun. Ce cas peut se discuter, mais aucun des autres cas, puisque Godard, que je continue à aimer vraiment, pour moi, le meilleur film de l'année, à part le film de Georges Miller, Mad Max numéro 4, c'est son Adieu au langage.
Ouais.
Il y a toujours dans chacun de ses films, depuis sa conversion, une citation ou l'autre totalement chrétienne,
ouais,
totalement mystique.
Alors,
mais quel génie.
Alors par contre, oui, vous avez dit que vous n'aviez jamais entarté ni d'imam ni de rabbin parce que vous ne pouviez pas entarter les uns sans les autres.
Maintenant, oui. Maintenant, on doit faire très très gaffe.
Ouais.
Si on s'en prend à un monothéisme, il faut que les autres y passent en même temps, il n'y a rien à faire.
Oui, mais du coup, vous avez entarté à tour de bras les curés.
Oui.
Et donc, il faudrait rattraper.
Du côté des imams et des rabbins.
Ben oui.
Ben oui.
D'accord. Donc, okay.
Mais oui, mais dorénavant, on aura une vue d'ensemble sur les trois monothéismes.
Ok, ok. Et les bouddhistes aussi, parce que c'est quand même des sacrés salopards.
Je me tournais par là parce qu'il y avait un petit rire bien voluptueux là dans ce coin-là.
Parce que c'est ça qui est aussi drôle, c'est que vous annoncez vos prochaines victimes et loin de vous causer que ça vous rende les choses plus difficiles parce qu'elles pourraient se méfier, etc. Au contraire, quand vous annoncez que vous allez entarter quelqu'un, vous recevez des appels de gens qui veulent vous aider, qui vous facilitent la tâche. Donc vous n'avez pas de problème à annoncer.
Tout à fait.
Et vous aviez annoncé l'entartage j'ai oublié son prénom, Malka, l'avocat de Charlie.
Richard Malka,
qui est l'avocat de Cliff.
Cette ordure totale, mais je l'aurais.
Est-ce que vous avez...
Absolument pas Richard Malka. Pour moi, c'est un des êtres les plus odieux de la planète.
Et vous n'avez pas renoncé
après l'histoire, après la tuerie de Charlie, ouais, le voir ricaner, d'accord, comme ça, c'était ben, et maintenant, ce qu'il veut faire de Charlie Hebdo, ça, comme Philippe Val, c'est le salopard total, intégral, aucune pitié pour Richard Malka.
Vous renoncez pas, vous n'avez pas peur que, du coup, maintenant, avec la sanctification...
Il n'est pas question d'avoir peur de quoi que ce soit, bien sûr, et on se fait très, très, très fort de démontrer qui est vraiment Malka.
D'accord, ok, très bien, très bien.
Il est extrêmement important que nous restions insoudoyables à travers tout.
C'est vrai, mais alors enfin, on se demande quand est-ce que vous pourriez éventuellement baisser les bras, ou parce que vous disiez à Rouillon des gens qui avaient baissé les bras. Vous dites que parmi ceux qui vous avaient inspiré le plus, vous dites les attentats pâtissiers sont inspirés des lettres d'insultes qu'envoyaient les Dada, puis les surréalistes, puis les situationnistes aux insupportables de leur époque.
Oui.
Mais vous dites votre influence principale, c'était le mouvement Youpi, Abby Hoffman et Jerry Rubin, l'auteur du livre Do It, qui eux arrêtaient pas de c'est eux qui ont, je sais pas si c'est eux qui ont les premiers entarté des personnalités, mais en tout cas
c'était concomitant.
Ils l'ont fait dans les mêmes années.
Chaque fois qu'ils étaient invités dans les médias, ils entartaient le présentateur directement.
À la bourse, oui, à Wall Street, où ils jetaient des billets.
Oui, tout à fait.
Dans la corbeille là.
Inoculation de LSD dans les réservoirs d'eau du Pentagone.
C'est bien. Mais alors, ce qui est dramatique quand même, c'est que Jerry Rubin, qui est donc un des fondateurs du mouvement des Youpies, c'est devenu un entrepreneur, un homme d'affaires. Un Youpie, voilà, qui était un des premiers investisseurs de Apple et qui est devenu un fervent républicain fan de Reagan.
Oui.
Et qu'une fois, on avait interrogé sur son parcours et qu'il avait répondu « Le monde a changé, nous devons changer aussi. La création création de richesse et la seule vraie révolution américaine.
C'est effrayant d'entendre ça.
Mais oui.
Venant d'un des génies de la subversion
mais c'est pas radicale, un peu le destin, totale. Enfin, même si les ex-situationnistes ont mieux vieilli que les anciens Mao, les anciens trotskistes, etc., c'est pas un peu une pente qu'ils sont tous obligés de prendre.
Il n'y a heureusement pas de fatalité, sinon nous serions foutus et archi-foutus. Non, beaucoup craquent en cours de route, passent à l'autre bord, mais quelques irréductibles restent là. Puis il y a une relève flamboyante. Je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste, car j'ai assez bien voyagé tous ces derniers mois et j'ai rencontré plein d'êtres prêts à tout pour en finir avec ce monde spectaculaire marchand dégueulasse.
Et alors, on va finir sur la dernière utopie, parce qu'on vous décrit souvent comme anarchiste, mais en vrai, vous êtes plus fouriériste qu'anarchiste.
Attention, le mot anar, utilisé à tort et à travers...
J'entends anar dans...
Je continue à le brandir. J'adore le mot anar, puisqu'il dit bien...
Dans sa conception.
Anar, c'est le refus de toute forme de loi et d'ordre. Résolument anar, mais... Il y a plusieurs tendances, il y a les anarchistes collectivistes à la Bakounine, les anarchistes individualistes à la Stirner, et d'autres, les anarchistes terroristes, aventuriers. Moi, j'aime toutes les tendances. En soi, j'ai toujours été pour que les diverses tendances anar et les diverses tendances révoltées combinent leurs forces et leurs talents pour s'abattre sur la tronche des puissants de ce monde.
Et est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes lié familialement avec Jean-Baptiste Godin
qui... C'est mon grand-oncle.
Mais non.
Mon arrière-grand-oncle Jean-Baptiste Godin, le créateur des familistères.
D'accord.
Je voulais fourriériste, mais j'ai toujours été très sévère avec lui, car il a réussi des réformes très louables dans ces usines. Les ouvriers étaient bien traités, c'était presque l'autogestion, mais toujours dans le cadre de notre ancien monde du travail, de la marchandise et même de la hiérarchie. C'était bien, pas mal du tout, mais ça avait quand même un petit côté social-démocrate. Et puis j'ai appris que mon grand-oncle Jean-Baptiste Godin était épouvanté par le nouveau monde amoureux de Charles Fourier, son brûlot dans lequel il propose de s'exploser orgiaquement, sexuellement, de la façon la plus totale, en proposant des modes de débauche totalement déchaînés. Ça va loin. Et que j'approuve totalement tout ce qu'il y a. Il faut lire le nouveau monde amoureux, pour moi le plus beau livre qui existe tout bonnement et qui peut être appliqué à la lueur de la technologie, à la lueur de toutes les nouvelles inventions. Mais attention, ne lisez pas n'importe quel utopiste, il y en a quelques centaines. J'ai été amené, pour mes travaux sur la subversion, à les lire tous. Très peu valent le coup, à part Cœur de Roi déjà, que Fourier, Oscar Wilde, Ernest Arnemont, et à peine une poignée d'autres. La plupart des utopistes veulent nous imposer leur conception du bonheur, et toute forme d'autorité est naturellement à pulvériser de façon définitive. Lisons Fourier et ingénions-nous à anticiper son précieux enseignement tout de suite, en vivant immédiatement dans la débauche à pleine voile.
Non mais d'accord, mais chacun voit dans Fourier ce qu'il veut. Moi dans Fourier je vois les Phalanstères, une organisation quand même assez... c'était cadré. Il y avait 810 catégories, et chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Enfin, c'est pas... c'était une organisation assez complexe. Enfin, ça se fait pas dans un claquement de doigts. Mais ça, est-ce que vous pensez que c'est le futur ?
Mais c'est après quelques générations, le monde qu'il expose, c'est pas pour tout de suite. Mais on peut tout de suite capter son état d'esprit qui est... Il n'y a qu'une forme de révolution, c'est que chacun vive dans le plaisir sans frein tout de suite, et que chacun soit le plus possible heureux à sa façon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Fourier, c'est qu'il a prévu toutes les nuances imaginables pour que les pires maniaques, sur tous les plans, puissent se satisfaire. Fourier a réponse à tout. Mmh. Par exemple, les pires violeurs, ceux qui resteraient d'abominables violeurs, même dans le Nouveau Monde, mais Fourier mettrait au point des poupées sur lesquelles qui pourraient violer en veux-tu, en voilà, à tour de bras. Ça ne serait que des morceaux de bois qui seraient souillés par ces falots.
D'accord. Donc, on pourrait imaginer, enfin, la Belgique pourrait être un espèce de grand phalanstère où on pourrait...
Un grand phalanstère, oui. Hein, en réimaginant le mot phalanstère et en n'oubliant pas que Fourier est quand même le seul théoricien qui a proposé une solution à tous les conflits guerriers internationaux en proposant que dorénavant, toutes les guerres se fassent avec des petits pâtés à la crème, en toutes lettres, dans le Nouveau Monde amoureux.
Voilà. Donc ça y est, on a la solution à tous les problèmes, la vie à la population.